Bonjour, nous sommes le lundi 15 juillet, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et c'est déjà l'avant-dernière de la saison, et tandis que l'été s'épanouit un peu partout, comme nous n'avons peur de rien, nous vous emmenons aujourd'hui au ski en famille, et ça risque de ne pas être simple. Aujourd'hui à la relève, on parle de littérature. Bonjour Jules Gasso.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle La nuit ne dure pas, qui est paru aux éditions Rivage au printemps, c'est ça? Jusqu'à maintenant, j'ai tout bon?
100% tout bon.
Et votre éditeur écrit sur la quatrième de couverture que c'est un roman tendre, drôle et corrosif. Je voulais vous demander lequel de ces trois adjectifs vous correspond le mieux à vous. Vous êtes plutôt tendre, drôle ou corrosif?
J'espère le premier.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est le plus charmant, c'est celui qu'on trouve le c'est un peu le plus précieux des trois, parce que corrosif, on est nombreux sur le terrain. Charmant, il y a des gens plus charmants que moi. Et donc,
drôle,
il y a des experts de la comédie, voyons, je suis un nain dans le domaine, mais donc je vais prendre la tendresse.
Alors, le personnage principal de votre roman s'appelle Paul, oui, et on ne peut pas dire que ce soit un exemple de bien-être épanoui. Je ne suis pas sûr qu'il mange 5 fruits et légumes par jour.
Ni l'un ni l'autre.
Et il se retrouve obligé d'aller chez sa mère, puis chez sa sœur au moment des fêtes de fin d'année. J'avais envie de lui demander pourquoi, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette situation de départ?
Disons que Noël, c'est souvent une période où les gens soit se retrouvent, soit évidemment sont éparpillés aux quatre coins du monde, ne se voient pas. Et moi, je me disais, tiens, j'ai jamais affronté la famille encore dans mes livres précédents. Et donc là, je me disais que c'était l'occasion de goupiller ça. Et puis parce que le narrateur,
Paul,
sort d'un divorce compliqué. Donc c'était aussi une façon de se ressourcer. Parfois, quand on voit pas ses proches pendant des années, il y a un moment où la vie fait que tout d'un coup, on les recroise. Et parfois, ça dure un quart d'heure. Et parfois, au contraire, on se réaccroche comme la moule à son rocher. Et donc lui est plongé dans une dizaine de jours avec sa famille.
Et ouais, et donc vous vouliez voir comment il allait réagir avec sa famille. C'est ce que vous dites, là, est-ce que le lien va se refaire ou est-ce que le lien est vraiment distendu? Alors on a l'impression qu'il a encore un lien avec sa sœur, moins avec sa mère, c'est-à-dire que la mère est gratinée.
Ah oui, effectivement, on sent qu'il la voit une fois par an, quoi, en gros. Hein, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement comment. Quand on est adolescent, on vit avec ses parents, on connaît leurs défauts, leurs qualités, on les accepte comme ça, on est là, on est un peu comme disait Godard, les enfants sont des prisonniers politiques, donc on est là comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Passé 18 ans, vous avez un passeport, vous pouvez aller où vous voulez sur Terre, personne ne vous embête, et lui, il se retrouve confiné avec sa mère au début dans un autocar, et ensuite avec sa mère et sa sœur dans une très jolie maison. Et là, il va être un peu comme un prisonnier politique, mais qui n'est plus adolescent. Donc, moi, ça m'amusait de voir comment on réagit quand on se sent mal à l'aise, entouré de sa famille, à l'âge adulte.
Alors, je vais vous poser une question idiote et je vais assumer. Il y a une époque où on reprochait aux gens de faire des films bourgeois, d'écrire des romans bourgeois. Est-ce que vous n'avez pas écrit un roman bourgeois, pour le dire autrement? Est-ce que vous n'aviez pas envie de parler des Gilets jaunes?
L'histoire se passe en 2014. Donc, il y avait déjà des prémices des Gilets jaunes. Effectivement, là, la situation est bourgeoise.
C'est une question idiote, hein, vous
non,
avez
pas
le droit.
Du tout, pas du tout, mais jamais, au contraire, non, pas du tout, parce que dites-moi si je me trompe et je dis des idioties. L'environnement, évidemment.
À la fin, on n'a pas de notes ici, vous savez.
Non, dans la vie, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de notes. Ça s'arrête assez tôt dans l'existence. Mais moi, la situation, effectivement, on est aussi entre Paris, la Suisse et une station de sport d'hiver. Les stations de sport d'hiver, par essence, au prix du forfait mécanique, c'est vrai que c'est pas des vacances de prolo, pour faire court. Maintenant, mon personnage principal, lui, navigue dans différents milieux. Moi, j'ai pas l'impression que lui-même soit une caricature de bourgeois bohème. Mais après, qu'il y en a forcément autour de lui. C'est vrai qu'il y a des personnages qui, peut-être pour certaines personnes, ont l'impression que ces gens n'existent pas. Après, oui, c'est pas un livre, c'est pas une chronique sociale, ou alors c'est une chronique sociale d'une caste qui est plutôt aisée. Mais il le dit parce que lui-même, à cette réplique, à un moment, il dit. il dit voilà, moi je, en fait il est entouré de gens propriétaires, et il dit bah voilà, sur l'échelle de l'infarctus, je pense qu'on doit gagner 10 ans d'espérance de vie. Et effectivement, quand on est propriétaire, c'est quand même moins contraignant que d'être locataire. Alors évidemment, il y a aussi des défauts, il y a des propriétaires qui se plaignent, mais il a quand même conscience de ça. Donc moi je trouve que, enfin, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais vous l'avez trouvé ennuyeux?
Ah, pas du tout. Non, justement, j'allais vous dire que votre roman justement déborde d'humour, de réflexion hilarante. Moi j'ai énormément ri en le lisant. Vous avez le sens de la formule qui cogne comme il faut, l'air de rien. Et j'avais envie de demander si vous avez pensé à un moment où vous auriez pu écrire le même livre de façon sérieuse, justement, sans ce que votre éditeur appelle drôle et corrosif.
J'aurais jamais pu écrire ce livre de façon sérieuse avec moi dedans. Ou alors il fallait changer mon...
Vous êtes dedans ?
Enfin, avec moi comme auteur, je veux dire.
Ah,
c'est qu'à un moment, enfin, je crois, moi je ne sais pas écrire à la manière d'eux, donc vous écrivez comme... Enfin, moi j'écris comme je suis, c'est mon seul point commun avec le slogan du McDonald's. Je viens comme je
voilà,
suis.
Voilà le sens de la formule. Ouais, il arrive là.
Voilà, mais donc c'est quand j'arrive devant mon, alors c'est moins sexy qu'une machine à écrire, mais aujourd'hui on va dire mon ordinateur agonisant. Je viens avec qui je suis, et puis surtout, je sais pas, moi j'ai un rapport à l'écriture qui est peut-être moins protocolaire qu'un étudiant ou qu'un auteur d'ailleurs qui dans le rêve, dans l'existence, était d'écrire. Moi je suis ravi, mais j'ai l'impression de pas avoir tous les outils, donc je viens avec. Avec mes remarques, je suis content que vous les trouviez drôles, ça me fait plaisir, mais il y en a qui vont détester, mais je viens avec ça, quoi, voilà.
Justement, parce que si c'était pas drôle, ça pourrait être Festen à Mary Bell, votre livre, non ?
Ah, ça, mais vous imaginez, si j'avais le talent de Thomas Winterberg, si j'avais réussi à faire Festen...
Bah, il y a de ça quand même, un peu... Au début, en tout cas, avec la mère, c'est assez violent ce qui se passe.
Ah ouais, non, tout à fait, c'est violent. C'est violent, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de contrebalancer avec ce qu'on appelle l'ironie, peut-être, pour faire un peu chaud-froid, quoi, voilà. Après, c'est aussi parce que parfois j'ai tendance à... Enfin, je crois que oui, parce que je crois que je suis incapable d'écrire totalement Festen. C'est-à-dire que quand une situation est totalement noire, j'ai quand même envie d'aller chercher un peu la lumière. Donc,
Justement, là, par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que vous aviez l'impression de ne pas avoir tous les outils pour écrire, est-ce que ça veut dire que finalement vous vous êtes retrouvé à écrire un roman un peu par hasard, que ce n'était pas quelque chose dont vous voyez depuis toujours? Alors, comment est née cette envie?
Alors, à l'origine, parce que celui-ci, évidemment, j'ai voulu l'écrire. Hein, donc, j'avais déjà passé quelques... Beaucoup...
Ouais, vous avez déjà écrit deux livres et un recueil de nouvelles, si je ne m'abuse.
Absolument. Donc, j'avais déjà passé un peu de temps de nuit blanche dessus. Donc, mais à l'origine, effectivement, c'est grâce à un éditeur qui s'appelait Stéphane Millon qui m'a fait rentrer en écriture dans une revue qui s'appelait Bordel. Et de fil en aiguille, j'ai continué à écrire et j'ai surtout aimé ça. Donc j'ai amélioré ma boîte à outils. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que généralement, mes erreurs de grammaire, c'est un peu mon style. Alors c'est terrifiant pour un professeur de lettres, mais j'assume, voilà, j'ai pas tous les trucs et astuces d'un écrivain. J'adorerais, mais j'espère qu'à chaque livre, ça s'arrange.
Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, dans votre livre, vous êtes aussi... Moi, j'aime pas trop qu'on raconte l'histoire plutôt qu'on en parle. Donc, vous êtes toujours sur la crête entre le rire et le désespoir. Votre personnage est un dépressif. Est-ce que vous-même, un peu ce dépressif
Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, j'espère que...
Il y a une espèce d'acuité dans ce qu'il voit, il est très, très... Comment ? Il voit très clair, quoi, finalement, les apparences tombent quoi, sous son regard. Il a quelque chose comme ça, quoi, c'est des lunettes qui filtrent.
C'est ça, c'est son lunette, c'est ses verres polarisants à lui. C'est vrai qu'il est, ce qu'on appelle l'inverse d'un être naïf. Donc, il a une vraie volonté de. Il n'aura jamais réponse à tout. Il n'essaye pas d'être dogmatique, mais il veut se résumer quand même. Voilà, quand on fait le plan large, l'existence, la vie, le soleil un jour va s'éteindre, on va tous y passer. Donc, est-ce que tout est si grave? Alors oui, tout est si grave en gros plan, et quand on élargit, bon bah à un moment, on a le droit d'en rire et de se dire. En fait, tout ça ne sert à rien, rien ne sert à rien. Alors, je suis d'accord qu'à partir de là, on ne va pas très loin. Et donc, lui va devoir quand même trouver des solutions pour aller quelque part.
Mmh. Il y a aussi dans ce livre donc, des passages très drôles. Est-ce que vous avez ri, vous, en les écrivant? Est-ce que vous riez quand vous les écrivez tout seul chez vous?
Pas autant que quand on écoute certains qui rient de leurs blagues. mais j'essaye de me dire...
Vous n'êtes pas le Laurent Ruquier de la littérature, donc?
Malheureusement non. Malheureusement, il est beaucoup plus prolifique. Il écrit une pièce de théâtre par an, plus le nombre de. Enfin, c'est beaucoup plus lent. Je suis d'une lenteur inouïe. Mais c'est
bon,
vrai.
Vous écrivez un livre tous les deux ans, ça va?
Oui,
pour l'instant.
Oui, pour l'instant. Moyenne. Voilà, pour l'instant, pourvu que ça dure. J'ai en tête, je me dis, il faut quand même faire, enfin, faut faire marrer, j'écris pas que des vannes, mais j'essaye de trouver des réflexions en me disant, tiens, peut-être que personne n'a eu cette réflexion avant, peut-être qu'on n'a jamais vu cette situation de ce point de vue. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais moi, ça fait 15 ans que je pense ça, mais en tout cas, pour moi, c'est nouveau, donc j'essaye un peu de chercher des nouveaux points de vue qui peuvent faire sourire, parce que justement, j'ai conscience que la vie, c'est pas toujours funky, que les lecteurs, je peux vous dire, il y en a, mais alors, pour des livres d'un auteur français de 30 balais, et bah, faut se lever de bonne heure. Donc, je me dis, bah, tiens, joue un peu sur l'humour pour changer et pour pas être plombant et pour essayer d'amener en littérature, ça se dit pareil. Une entrée en littérature, comme il y avait la bande dessinée qui pouvait aider, le manga. Bah moi, je me dis, tiens, avec l'humour, ça va peut-être redonner envie à des gens de lire. Et en plus, j'ai des super cobayes autour de moi qui lisent un livre tous les deux ans.
On a l'impression, vous écoutez, que vous avez peur d'ennuyer les gens. Je pense à cette phrase de Tati qui a longtemps été dans les Inrocks. Je ne sais pas s'il y a toujours, il y a très longtemps que je vais chez les Inrocks. Trop de couleurs distrait le spectateur. Où j'ai l'impression que c'est trop de noirceur distrait le spectateur. Hein. Alors, tout cas, déprime le spectateur.
Oui, disons, en fait, je connais mes démons. Comme vous avez dit, je pense pas que je pourrais écrire un bouquin complètement sérieux. Par contre, je pourrais écrire un bouquin complètement déprimant. Et justement, j'essaye de lutter contre ça parce qu'il y a un moment, dans ce cas-là, faut que je peux le faire pour moi personnellement, comme je fais un journal intime, mais je fais pas ça pour faire chier les gens qui l'ont acheté quand même. Il faut être un peu cool.
Alors, le héros de votre livre est un ancien journaliste sportif à la radio qui travaille sur l'adaptation de ce roman en film. Est-ce que vous pourriez travailler sur l'adaptation en film de ce roman? Est-ce que vous aimeriez d'abord l'adapter? Est-ce qu'en l'écrivant, vous y avez pensé?
Alors, en l'écrivant, j'y ai pas pensé, mais ce serait...
C'est un peu un genre de film, le film de Noël.
Ah, c'est complètement un genre de film, ça c'est vraiment...
C'est beaucoup mieux que Love Actually, hein, moi je tiens à le dire, je déteste ce film.
Waouh, merci. Bah écoutez, j'espère qu'un producteur vous écoute.
Tous, ils nous écoutent tous.
Moi j'adore le film de Noël, le Grinch, parce qu'il n'aime pas Noël, et puis parce qu'il y a Jim Carrey. Mais non, j'y ai pas pensé en l'écrivant, il y a peut-être moins de rebondissements que dans un scénario de cinéma. Mais en tout cas, oui, le personnage principal,
c'est monté en... C'est parce qu'il y a des chapitres très courts. Les chapitres sont assez courts, c'est monté très rapide. Enfin, j'en utilise un terme de cinéma. C'est monté comme des scènes, quoi, un peu.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que voilà, moi, j'ai monté beaucoup de publicités. Donc, quand vous montez des publicités, vous montez des images. Et souvent, moi, avec un dictionnaire, j'ai un peu l'impression de monter le dictionnaire. Alors, l'idée, c'est d'être percutant. Alors, peut-être j'ai fait trop de pubs. Il y a pas mal de 30 secondes ou 15 secondes, donc il faut être vraiment rapide. Et là, l'idée, c'est j'essaye d'écrire... j'essaye d'écrire pour dire des choses et avoir des choses à raconter et ne pas engluer dans des ramifications où on ne comprend rien, on ne sait pas où les personnages vont. Donc c'est vrai que j'ai essayé de monter au max.
C'est une écriture efficace, c'est une histoire qui s'est écrite efficacement. C'est pas un défaut, hein.
Non, en plus, moi, je sais que ça me plaît. Après, je suis ravi de lire parfois des énormes romans où les auteurs sont bons sur 800 pages. Moi, j'ai pas ce talent-là parce que quand vous écrivez, c'est une chose, mais en plus, quand vous écrivez un livre, vous devez vous relire avant que ça sorte. Et bien, je peux vous dire que moi, lire les autres, c'est toujours formidable. Se relire, mais c'est terrifiant. Donc, vous imaginez, si j'écris 800 pages et je dois me relire, je suis pas sûr d'arriver à un rendu qui sera de qualité pour le lecteur. C'est pour ça que j'adore les nouvelles. Je sais que c'est un genre compliqué. Moi, j'en ai fait deux recueils parce que j'ai quasiment la certitude. En tout cas, j'ai l'autonomie pour dire, j'ai écrit, je vous livre quelque chose, je vous arnaque pas. Parce que, en fait, il y a énormément d'escrocs. Il y aura toujours des escrocs. En plus, ils sont toujours sympas. Donc, moi, j'aimerais bien rester sympa, mais ne pas être l'escroquerie du livre. Donc, je me relis, mais ce sera jamais très gros.
Alors ça tombe bien, vous parlez des nouvelles. C'est votre deuxième roman, après On a tué tous les Indiens. Vous aviez écrit un premier recueil de nouvelles qui s'appelle, Manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes filles, ouais. Et le second qui s'appelle Un chien en ville. Pourquoi revenir au roman?
Alors, le roman, c'est le genre roi en France. Hein. C'est-à-dire que, c'est le genre roi. Pas sur votre fiche de paye, mais c'est le genre le plus noble. C'est le côté livre bourgeois. Parce que sinon il faut faire des essais, mais alors des essais il faut être prof ou il faut être très brillant, voilà. Donc tant ni l'un ni l'autre, j'ai choisi le roman.
Ou il faut avoir plein d'amis
Il faut avoir plein d'amis, 5000 amis sur Facebook, plusieurs comptes Facebook, enfin tout le truc. Et non, pourquoi? Alors c'est vrai que le recueil de nouvelles, j'espère que j'y reviendrai un jour. Mais là, voilà, je crois qu'il y a un plaisir des éditeurs. J'ai une super éditrice qui s'appelle Émilie Colombani et qui a un vrai plaisir à proposer une histoire au lecteur, de vivre une aventure de A à Z et pas un condensé très court dans une nouvelle. C'est vrai que moi j'ai un vrai plaisir à les écrire ces nouvelles parce que ça permet de passer les parties où vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire vous pouvez faire vraiment l'accouchement d'une histoire ou la résolution d'une histoire sans faire le développement. C'est un peu comme au cinéma, certains films où vous allez jusqu'au premier baiser et paf, générique de fin. Et il y a d'autres films qui démarrent sur le premier baiser, vous allez vivre toute la relation, toute la vie du couple et ça finit. Alors si vous êtes barman, formidable. Si c'est pour nous ennuyer pendant une heure et demie ou moi vous ennuyer pendant 200 pages, j'ai aucune envie d'être ce mec-là. Voilà. Donc j'essaye de vous rendre la vie plus fun et après le livre, j'espère. Moi, l'idée, c'est qu'après le livre, on aille mieux qu'avant le livre. Voilà.
Qui sont les auteurs que vous aimez? On pense à... Ben, je vous dirai après à qui je pense.
Ah, très bien. Bon. Alors, bah, enfin, alors... Bon, alors j'adore les auteurs vivants, je n'aime pas que les auteurs morts. Et je suis ravi s'ils vendent beaucoup, beaucoup plus de livres que moi. Moi, je suis un fan inconditionnel d'un jeune auteur qui s'appelle Romain Monnery,
ouais.
Publié au Diable Vauvert. Et vous pouvez, tous ceux qui ont envie, qui ont besoin cet été d'une lettre de démission, que ce soit professionnelle, familiale, il a écrit un superbe livre, là, qui vient de sortir. Il y a 101 lettres de démission de tous les domaines, donc même de démissionner de la mort, qui démissionne. Enfin, il y a plein de trucs, c'est hilarant.
Il est très, très drôle, ouais.
Voilà.
J'avais beaucoup aimé son roman qui a d'ailleurs été adapté au cinéma, je crois qu'il y en a un.
Absolument, le premier, Libre et Assoupi. Ouais, tout à fait.
C'est ça, Libre et Assoupi.
Donc, il écrit vraiment divinement bien. Dans les jeunes, toujours, François-Henri Désérable écrit magnifiquement. Un peu plus d'étoffe, Nicolas Rey, le prince de Paris. Et ensuite, en apôtre de la noirceur, j'ai une fascination pour un monsieur qui s'appelle Roland Jacquard. Qui est vraiment le... Déjà, pour vous donner le tempo, il a écrit le Que sais-je sur la folie et le suicide. Donc déjà, je veux dire, moi déjà, je suis amoureux. Voilà.
Et dans les films, les metteurs en scène ?
Oh, les metteurs en scène, enfin, je pense que je suis comme nombreux Français, on est toujours compliqué. C'est sûr que j'ai toujours tendance à penser qu'un mauvais plan de Martin Scorsese reste un excellent plan. Ça n'existe pas. Francis Ford Coppola a quand même fait Apocalypse Now.
Et plein d'autres choses.
Ouais, mais évidemment. Donc non, il y a des génies.
C'est marrant, vous citez pas Woody Allen. Alors que moi, votre livre m'a beaucoup fait penser à Woody Allen.
Ah mais je vais vous dire un truc. Je vais vous le reciter parce que pareil, Woody Allen, de temps en temps, il y a Le Roi d'un loupé. Il en fait un par an, ce qui est quand même. On connaît pas ça. Maintenant, on n'a plus le droit de citer son nom, mais on est en France, donc on va le faire. Woody Allen, c'est moi une année sans Woody Allen, je suis une année malheureuse. Moi j'aimerais arriver à être capable d'écrire un livre qui vaille une réplique d'un Woody Allen, tellement son esprit c'est hors du commun. C'est-à-dire que son analyse, sa vision du couple, sa vision des hommes, sa vision des femmes, l'art là-dedans, parce que quand même il a un mot à dire, c'est divin.
Un petit peu toi et moi.
C'était Toi et Moi, je crois qu'ils l'ont assez dit, du groupe Paradis, extrait de son premier album qui date de 2016. On date un peu nous aussi, Recto Verso, ça s'appelait.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Jules Gassot qui vient de publier chez Rivage, La Nuit ne dure pas. Alors juste avant la pause, on parlait de vos auteurs de prédilection et je me suis demandé en vous lisant si ce que vous aimiez le plus n'était pas Chamfort, d'ailleurs, que vous citez à un moment, et si au fond vous n'aviez pas envie d'écrire un recueil de Maxime, parce que votre livre en est parsemé. Les vôtres en plus sont très drôles.
Merci beaucoup.
J'ai essayé d'en trouver quelques-unes, je ne les ai pas préparées, mais allez-y.
Chamfort était un poète formidable. En plus, comme tous les poètes formidables, il a essayé de se supprimer à la fin de sa vie. Et en plus, dans son cas, ça a un peu raté, mais bon, ça, il a fini par succomber. Effectivement, les aphorismes, les maximes de Chamfort sont absolument divines. Et là, le héros, là, part avec un... Comme il y a un embouteillage monstre dans le livre, et heureusement pour survivre un peu à l'embouteillage, il a un bouquin avec des aphorismes de Chamfort, donc ça lui permet un peu de tuer le temps. Et moi, je suis pas sûr de pouvoir en avoir autant que lui. Donc
il y en a pas mal quand même. J'en citais quelques-unes que j'aime bien. Les années qui ont suivi m'ont fait prendre conscience d'une chose : ma famille a autant peur du bonheur que les diabétiques se tiennent à l'écart du sucre. Moi, ça j'aime beaucoup. Celui que j'aime beaucoup, c'est... enfin, je les aime toutes beaucoup. Donc après le passage à vide qui a marqué la fin de ma carrière journalistique, je me suis improvisé écrivain relatant mon suicide sentimental. On raconte toujours ce qu'on rate. Et ma préférée : les passagers font du drame pour combler l'indigence du voyage. Ça, je crois qu'on pourrait dire ça des humains et de la vie. On fait du drame pour oublier l'indigence de nos vies.
Mais j'ai l'impression. Alors, après, en ce moment, je suis en train de surfer là-dessus pour le prochain.
Je crois que votre livre est déprimant, alors que pas du tout.
Oui, voilà, parce qu'en contrepartie, effectivement, ce que vous disiez sur une certaine lucidité, après, ça n'empêche pas de prendre du plaisir partout. Et c'est là où, oui, effectivement, comme vous disiez, le milieu, il est aisé. Mais le type est totalement conscient des privilèges des certains, des injustices à l'autre bout du monde. Il s'intéresse à tout parce que déjà, il est chroniqueur radio. Quand vous êtes chroniqueur radio, même si lui était spécialisé en sport, mais il n'aimait pas ça spécialement, vous devez vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc vous êtes curieux de tout. Et c'est impossible de rester indifférent au sort au sien et aussi, mais celui des autres. Donc là-dessus, effectivement, il a un petit problème avec dans son embouteillage catastrophique. Il fait le traducteur entre les passagers qui parlent anglais et le chauffeur qui ne parle pas anglais. Et le pauvre, il craque. Et donc, effectivement, il en supporte plus de les voir, de considérer que c'est une hécatombe d'arriver en retard. Alors que bon, c'est vrai que c'est pas non plus la fin du monde. On est tellement habitué à arriver à l'heure, mais sauf les passagers du RER parisien. Mais sinon, voilà, on aime bien arriver à l'heure. Mais ça ne remet pas en cause votre existence entière.
Il y a un moment, il dit d'ailleurs qu'il déteste les gens qui attendent sans rien dire. J'ai oublié, mais il y a une formule comme ça, il s'en prend aux gens qui acceptent d'attendre
les gens
stoïquement.
Les gens qui font la queue, c'est cette nouvelle mode qui nous vient tout droit, je ne sais pas, d'Algérie, des pays de l'Est, à l'époque où il n'y avait rien dans les boutiques, où maintenant vous voulez aller au resto et on vous dit, mais bien sûr, monsieur, il y a une table dans 1h30. Donc oui, lui, effectivement, faire la queue, attendre patiemment et de ne pas être considéré, en fait, c'est ça, c'est un peu cette sorte de humiliation qu'on fait subir à la plupart des êtres humains, en fait, un peu comme quand on vous demande de vous déshabiller dans un portique dans un aéroport, c'est-à-dire que c'est vraiment l'humiliation, et le type qui prend son jet privé au Bourget, lui, il subit pas cette humiliation, et donc là-dessus, voilà, lui, ça le gonfle sévère.
Vous disiez que dans votre prochain roman, alors il sera moins...
Non, mais j'essaie
d'éviter ça.
J'essaie d'enfoncer le clou, j'essaie de m'améliorer. Ce sera le dernier sur un quarantenaire, je pense, mais le prochain, il est encore là. Voilà, c'est un autre univers, mais pour reprendre un peu les vies qui sont pas toujours palpitantes des gens. Il y a un personnage qui est professeur à l'université, enfin, au lycée, et il se dit mes élèves leur vidéo porno, ça sera la seule trace de leur passage sur Terre. Et
voilà. Oui, c'est encore pire. Vous êtes aussi donc, on a déjà dit beaucoup bien de vous, on va continuer. Vous êtes aussi un très bon portraitiste, on vous l'a déjà dit, vous avez un sens de la caricature. Là, tous les gens qui sont invités à ce réveillon du 31 décembre, ils ont l'air d'exister. Là, ce couple de décorateurs, il y a le Picassier de Sans-Gêne, un producteur à la retraite, je crois.
Absolument.
Tous ces gens-là, vous les avez rencontrés, vous les avez imaginés, une question classique, mais comment on les invente, ceux-là ? La sœur bio qui est formidable.
Ah, merci beaucoup. Ah, bah, alors, ça, j'espère que le prochain livre va sortir dans pas trop longtemps parce que c'est un spécial détox et bio. non, heureusement qu'il y a le dictionnaire parce que moi, pour caricaturer, je sais absolument manchot des deux mains, donc je ne peux pas dessiner. Donc ma seule façon de dessiner, c'est dans ma tête et c'est en collant des mots. Alors les gens... C'est souvent des mélanges de gens entre ce que vous avez rencontré, ce que vous avez, et puis ce que vous imaginez. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que j'essaye de les rendre matériellement tangibles, quoi, qu'ils aient une vraie existence propre, mais c'est jamais le copier-coller de quelqu'un que je connaisse. Voilà, c'est toujours, ça passe au filtre des méandres de
Charbon. Justement, on prend un trait de quelqu'un qu'on a vu et on l'ajoute à quelqu'un d'autre.
C'est ça, exactement. Vraiment, vous entendez une réplique, vous vous dites, tiens, je vais broder un personnage autour, qui physiquement, la personne n'a rien à voir avec la réplique que vous avez entendue. Ou alors, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous voyez une tenue, un accoutrement, vous avez un pote d'enfance et que vous aimez plus que tout, et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien te faire un petit. Tiens, j'aimerais que tu te reconnaisses, parce que j'ai toujours la naïveté de penser que des potes d'enfance vont lire, mais ça n'arrive pas. Mais voilà, donc c'est des petites choses, mais c'est comme un peintre, mais un peintre avec des mots. Voilà.
On n'a pas encore parlé d'amour, alors que c'est la grande blessure de Paul, votre personnage. Entre l'amour qui ne dure pas longtemps, le sien, et les couples qui restent et qui tiennent au prix de compromis, qu'est-ce qui vous semble pire ?
Ah, mais attendez, à une époque, réellement, je ne votais pas, je rêvais d'avoir vivre dans une anarchie totale. Donc je vais vous dire, accepter le compromis, vous êtes mort. Mais voilà, il vieillit, le narrateur. Mais évidemment, on aimerait tous vivre sans compromis. Je ne sais pas si c'est possible.
Mais là, dans le livre, c'est quand même ça. C'est même pas que les histoires d'amour finissent mal. C'est que celles qui durent sont quand même assez sinistres. On va pas dire entre la mère. En même temps, elle est très touchante, la mère. Elle est très tendre, comme vous diriez, derrière une apparence.
Elle est cruelle, elle est tendre et cruelle. Elle est deux en un.
Et à la fin, il y a une révélation qui est assez jolie. Puis la sœur aussi, que les femmes sont fortes dans cette famille.
J'espère, de toute façon les femmes m'ont toujours sauvé, elles nous sauveront tous, donc c'est sûr que c'est mes personnages, c'est pas mes personnages principaux, c'est plus mes personnages principaux, mais c'est le ciment du bouquin, et le héros, comme vous dites, il est totalement romantique, et comme Doc Gynéco, s'il n'y a plus de femmes dehors, il sort plus, quoi.
Est-ce qu'au fond vous aviez pas envie, je continue dans mes obsessions, est-ce que vous aviez pas au fond envie d'écrire un roman d'amour et vous n'avez pas osé?
Moi, c'est toujours des romans d'amour. J'ai toujours l'impression que c'est des romans d'amour parce que c'est vraiment tous les personnages. Enfin, le personnage principal, il est vraiment. C'est un romantique contrarié, donc il n'y a pas pire. C'est-à-dire que le type est une bombe en puissance. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de lâcher quelques répliques un peu cyniques. Mais je crois que c'est toujours des romans d'amour.
Vous partez, on est au mois de juillet, là, vous partez bientôt à la plage ? C'est pour savoir si le prochain se passera à la plage.
Ah, le prochain, il ne se passera pas à la plage.
Et vous allez encore au ski ou pas ? En famille ?
J'espère qu'ils m'autoriseront toujours à aller skier, mais il faut vendre beaucoup de bouquins.
Jules Gassot, je vous remercie d'être passé. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La nuit ne dure pas, paru aux éditions Rivage. Merci d'être venu.
Merci.
Et je vous souhaite un bel été alors.
Vous aussi.
Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà... Ah oui, non, j'ai dit que je ne comptais plus les épisodes, car je me suis trompé 22 fois dans les numéros. Donc c'était l'avant-dernier épisode de la saison 3. La réalisation était signée par Antonin, la présentation et la préparation et le comptage défectués par Christophe. Vous retrouverez le podcast sur le site de Radio Campus Paris, ainsi que plein d'informations sur notre page Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans 15 jours pour la dernière de la saison. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Rendez-vous ce soir à 19h pour la matinale. Merci.